Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Tiara Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous. Dans la grande aventure de la parentalité, il est un sujet crucial et redouté, le sommeil des enfants. Votre enfant dort mal ou très peu et cela commence à peser sérieusement sur votre corps et votre cerveau. En la matière, deux équipes se distinguent, celle des parents dont l'enfant fait ses nuits et puis l'autre qui survit en espérant que sa progéniture parvient à allonger son temps de sommeil nocturne avant ses 2 ans. Quasiment un enfant sur deux est concerné par les troubles du sommeil durant ses 6 premières années, mais le sommeil varie d'un enfant à l'autre et beaucoup de facteurs génétiques, biologiques et environnementaux vont influencer le type de sommeil de l'enfant. À 6 mois, il a atteint la maturité psychologique, autrement dit, il dort au moins 5 ou 6 heures d'affilée. Jusqu'à 2 ans, il dort environ 14 heures par jour, puis 12 heures entre 2 ans et 5 ans. Mais comment savoir si les besoins de l'enfant en sommeil sont satisfaits? Que faire si leurs nuits sont un problème? Quels conseils pour faciliter l'endormissement des petits? Nous parlerons des troubles du sommeil chez l'enfant en compagnie de Liliane Nemet-Pierre. Elle est psychologue, clinicienne, psychanalyste à Paris, auteure de 7 enfants qui ne dorment pas pour en finir avec les nuits sans sommeil aux éditions Le Livre de Poche. En seconde partie, nous serons en direct de la République démocratique du Congo avec le professeur Kalombo Mupoya. Il est pédiatre aux cliniques universitaires de Lumumbashi. En fin d'émission, autre thème, nous nous intéresserons au lancement d'une étude nationale française qui évalue l'intérêt de la santé connectée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Nous entendrons à ce sujet le docteur Boris Ancel du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Bichat Claude Bernard. Et n'hésitez pas à nous appeler, vous avez la parole, le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75. Liliane Nemet-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors moi, je vais vous demander dans quel état arrivent les parents qui vous consultent, notamment pour les troubles du sommeil de leur enfant?
Alors les parents arrivent dans un état terrible, au bord de l'explosion ou de l'implosion, on dirait des rescapés de nuits sans sommeil, ou de nuit coupée, interrompue, parce que souvent les bébés et les enfants se rendorment, mais les parents, eux, ne se rendorment pas. Donc j'ai en face de moi des parents un peu survivants de ces nuits où le bébé ou l'enfant appelle et ne dort pas.
Parce qu'en fait, l'enfant qui ne dort pas, c'est finalement toute une famille qui
c'est toute une famille et la fratrie également.
Et puis bien dormir a des conséquences importantes sur la santé. Le sommeil, c'est indispensable au développement, notamment cérébral, de l'enfant. Par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut citer d'autre
comme bienfait du sommeil. Alors, d'abord, il y a une régénération de toutes les cellules, l'évacuation des toxines, les connexions neuronales se renforcent, l'immunité aussi de l'enfant se renforce, l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil, et puis il y a les capacités d'attention et de concentration se recharge, et puis surtout, il y a une partie psychique très importante, où là, les conflits, les difficultés relationnelles, etc., sont vraiment digérés pendant la nuit, pendant les rêves. Donc, le sommeil a une importance cruciale pour le développement d'un petit enfant.
Quand les parents arrivent en consultation, un peu inquiets, parce que c'est vrai que l'inquiétude revient beaucoup lorsqu'on parle de troubles du sommeil, quels sont les signes qui doivent alerter sur le manque de sommeil?
Alors d'abord, un enfant en dessous de 6 ans qui dort moins de 10 heures par nuit est en danger. Bon, mais les signes qui peuvent alerter, en fait, les parents sont plutôt les signes qui peuvent alerter, c'est les enfants qui n'arrivent pas à faire la sieste, les enfants qui ne dorment que sur de très petite période, les enfants qui n'arrivent pas à enchaîner leur cycle de sommeil et les enfants qui se réveillent plusieurs fois par nuit. Ça, ces signes-là doivent alerter. Et puis, surtout, le comportement dans la journée. Un bébé ou un enfant qui ne dort pas est irritable, a beaucoup de mal à se concentrer. Donc, tous ces signes-là doivent alerter.
Mais quand est-ce qu'on parle de trouble du sommeil alors ?
Alors, on parle... Le trouble du sommeil, c'est très relatif. Il y a des parents qui vont considérer qu'un petit bébé de 3 mois qui se réveille 3 fois dans la nuit ou qui ne dort pas beaucoup dans la journée a un trouble du sommeil. Et puis, il y a des parents qui vont supporter qu'un enfant de 5 ans se réveille encore 2 fois dans la nuit. Donc, le trouble du sommeil est en fait fonction de la tolérance des parents. Parce que l'enfant finit toujours par dormir. Même si c'est entrecoupé tout le temps par des réveils, il finit par dormir. Peut-être mal, mais il dort. Donc c'est fonction de ce que le parent ou les parents vont supporter.
Et quels peuvent être les retentissements de ces troubles du sommeil ? Donc on vient de parler quand même des parents qui semblent fatigués, irrités eux aussi. Mais pour l'enfant ?
Pour l'enfant, vous avez un enfant qui est irritable, qui pique des crises, beaucoup de crises. D'ailleurs, les parents m'appellent après la consultation et disent « Écoutez, c'est plus le même enfant, il dort et il ne fait plus de crises. » Bon, donc l'enfant va faire des crises, va être irritable et va avoir beaucoup de mal à se concentrer et à faire des apprentissages.
Et quelles sont les erreurs largement répandues chez les parents qui sont à éviter pour ne pas renforcer ces troubles du sommeil ?
Alors, les erreurs les plus souvent faites par les parents, c'est de rester jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Déjà, un bébé allaité, de le laisser au sein, de le laisser s'endormir au sein après 4-5 mois. Bon, au début, bien sûr, les premiers mois, on peut le laisser s'endormir au sein. Mais après, il est important d'enlever le bébé avant qu'il ne soit endormi, que l'enfant ait conscience de la séparation. Et après, quand il est plus grand, faire confiance à son enfant peut rester dans son lit tout seul et quitter la chambre, le quitter avant qu'il ne soit endormi. Parce que si on reste jusqu'à ce qu'il soit endormi, quand il va avoir ses fameux réveils la nuit autour des 2 ans, où il y a des réveils la nuit, il ne pourra pas se rendormir tout seul, puisqu'en début de nuit, il s'était endormi avec un parent à côté de lui.
Tout à l'heure, vous évoquiez quelque chose d'intéressant, puisque vous parliez du jour, qui est finalement relié à la nuit. Vous dites qu'on résout les problèmes de sommeil en se préoccupant de ce qui se passe le jour. Vous le répétez d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Oui. Expliquez-nous pourquoi cette démarche, elle est fondamentale.
Alors, elle est fondamentale parce que un enfant qui dort bien est un enfant qui est sécurisé. Donc, qui est sécurisé par tout ce qui se passe dans la journée. C'est un enfant qui a suffisamment ses parents dans la journée, le matin ou le soir, qui a des moments d'échange de bonne qualité, surtout pas des moments d'échange avec la télévision en bruit de fond. Un enfant qui a sa dose de parents suffisante. Et si l'enfant n'est pas sécurisé dans la journée, eh bien, il va se rappeler au bon souvenir de ses parents et il ne pourra pas rester dans son lit tranquille et bien dormir.
Et durant cette journée, il y a aussi les siestes qu'on peut d'ores et déjà évoquer, puisque c'est indispensable finalement pour les enfants.
Effectivement, les siestes sont indispensables jusqu'à 3-4 ans. Mm-hmm. Même nous, on devrait faire la sieste, c'est physiologique, mais en tout cas, c'est obligatoire ce temps d'arrêt dans la journée vers 3-4 ans. Et n'oublions pas qu'il y a beaucoup de parents qui font sauter la sieste de début d'après-midi. Or, si l'enfant s'habitue à sauter sa sieste, eh bien le soir, d'abord, il va être très irritable. Et deuxièmement, eh bien il va faire la même chose que pour la sieste, c'est-à-dire qu'il va éviter de s'endormir. Il va, comme il est habitué à contrecarrer ses signes de fatigue, il ne va pas se laisser aller à ses signes de fatigue du soir. Donc, ne pas oublier que plus on dort, plus on a envie de dormir, et moins on dort, et moins on arrivera à dormir.
Mais combien de temps elle doit durer, la sieste ?
Alors, la sieste, c'est en début d'après-midi, et c'est entre 1 à 3 heures, si c'est en début d'après-midi. Ne pas faire une sieste à partir de 15 heures. Parce que sinon, l'enfant ne va pas dormir le soir. Donc, c'est tout de suite après le déjeuner.
Alors ça, ce sont des inquiétudes qui parlent à nos auditeurs, qui nous appellent. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir communiquer autour de ce sujet. On va d'ores et déjà prendre nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Direction Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Fatimata.
Bonjour Diara.
Alors Fatimata, vous avez une question pour nous, on vous écoute.
Ben oui, avant tout, je vous salue très bien toute l'équipe Priorité Santé. C'est une bonne émission, on se suit.
Merci Fatimata.
Ben, j'ai un problème, ma fille a 2 ans, mais la nuit elle ne dort pas très bien. Depuis sa naissance, on a ce gros problème. Nous aussi, ses parents, vraiment, on en souffre. La nuit, elle se réveille 2 à 3 fois. Ben, elle pleure. Et vraiment, ça nous a vraiment causé beaucoup de problèmes. Surtout moi, j'étais à l'université, mais à cause de ça, j'ai arrêté mes études pour mieux se concentrer sur elle. Et vraiment, j'aimerais avoir des solutions sur ça.
Mais, Madame Liliane Nemé-Pierre, oui. Fatimata exprime un sujet très très préoccupant puisqu'elle a carrément dû arrêter ses études.
Oui, elle a dû renoncer à ses études. Alors Fatimata, bonjour. Je comprends que ce soit effectivement très difficile, mais comment est-ce que depuis que vous avez arrêté vos études, est-ce que vous voyez un changement dans les nuits de votre fille?
Non.
Parce qu'elle voit davantage sa maman. Elle vous voit davantage qu'avant. Est-ce que c'est vous qui la gardez actuellement, dans la journée?
Bon, oui, c'est moi qui la garde.
Et avant, qui la gardait?
Avant, il y avait une voisine.
Oui.
Je pars à l'école, à l'université, je laisse avec elle. Mais même la journée... des fois, elle dort bien la journée, hein. Mais quand je reviens, elle me voit la nuit.
Oui, alors.
Elle refuse de dormir.
Oui, Fatimata, ce qui est important, c'est qu'elle dorme bien le soir, la nuit. C'est le plus important, ça. Qu'elle dorme bien dans la journée. Alors, vous disiez qu'elle fait 2 siestes. Une sieste à 9h du matin et une autre sieste à 13h. En fait, la sieste, ça se fait pas le matin. Tant pis, si elle a sommeil le matin, vous ne la laissez pas dormir le matin. Parce que ça la dérègle complètement. Elle va plus être en dette de sommeil dans la journée et du coup les horaires là de coucher et de sieste ne vont pas du tout. La sieste c'est tout de suite après le déjeuner. Donc même si elle est fatiguée le matin, vous lui faites faire la sieste après le déjeuner, surtout pas à 9h du matin. Et donc vous la laissez faire une sieste longue et le soir, est-ce qu'elle s'endort toute seule sans vous? C'est-à-dire est-ce qu'elle a sa chambre ou elle dort dans votre chambre?
Non, elle dormait seule.
Elle dort toute seule?
Elle dormait toute seule. Mais après, entre-temps, elle criait, elle pleurait la nuit. Après, je l'ai emmenée chez nous. Maintenant, on dort ensemble.
Ah, peut-être très intéressant d'aborder le cododo, finalement.
Oui.
Alors, il y a des parents qui dorment avec leur enfant dans leur lit. Est-ce que c'est une bonne chose à faire?
Alors, il y a cododo et cododo. Il y en a qui appellent cododo le fait d'avoir le lit de l'enfant dans la chambre des parents. Et il y en a d'autres qui appellent le cododo le fait de dormir dans le lit des parents.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Alors ça va dépendre des cultures. Moi je m'occupe en Europe du coucher des enfants. On ne dort pas dans le lit des parents. On ne dort pas dans le lieu de la sexualité des parents. Hein, et c'est pas parce qu'on va passer la nuit avec son enfant que son enfant va mieux dormir. D'ailleurs, il y a des enfants qui ne dorment pas au milieu des parents. Mais quand on n'en peut plus, on prend son enfant dans sa chambre. Oui. Donc là, j'ai l'impression que Fatima, que votre fille, elle est revenue dans la chambre des parents, c'est ça, Fatimata?
Elle est revenue, tout à fait.
Elle est revenue, mais dans votre lit ou dans un lit? Dans un lit à elle.
Bon, elle avait son lit dans notre chambre.
D'accord. Ben vous faites ça. Oui, ce qui est important, c'est que elle s'endorme toute seule pour la sieste, c'est-à-dire que vous quittiez la chambre avant qu'elle ne soit endormie. Si elle peut s'endormir toute seule à la sieste et le soir, elle pourra se rendormir toute seule la nuit. Et il faut pas accourir tout de suite dès qu'elle se réveille la nuit. Quelquefois, il y a des enfants qui pleurent entre chaque cycle de sommeil.
Fatimata, merci à vous de nous avoir appelés et surtout, bon courage.
C'est ce qu'on peut lui souhaiter.
On va prendre Odilon en ligne de Guinée-Conakry.
Bonjour, madame.
Bonjour. Odilon.
Bonjour, docteur. Et bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé.
Odilon, on vous écoute.
Moi, en fait, j'ai mon enfant de 5 ans.
Oui.
Et là, il ne dort pas, il n'a pas sommeil la journée.
Oui, c'est tout à fait normal, monsieur.
La nuit, il n'a pas sommeil. Il dort qu'à partir de 22h30 ou 23h. Et il est la première personne aussi à se réveiller vers la 4h du matin.
Oui.
Lui-même qui me réveille souvent.
D'accord.
Bon, mais j'ai constaté que souvent, à l'école, il est le premier, il est bien intelligent. Mais sûrement que je me soucie, est-ce que ce n'est pas un problème? Il ne fait pas les 8 heures de sommeil.
Odion, est-ce que votre enfant fait la sieste?
Vous dites?
Est-ce que votre enfant fait la sieste la journée?
Non.
Ah, oui. Non, il n'y a pas de sieste. Non, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Odion?
Alors, je vais vous dire, monsieur, que votre enfant est tout à fait normal. À 5 ans, on ne fait plus de sieste. Bon, il y a des enfants qui en ont besoin, mais très rarement. Alors, ça dépend si vous habitez dans un pays très chaud, où là, tout le monde fait la sieste parce que la chaleur est très, très forte. Mais sinon, on ne fait pas de sieste à partir de 3 ans. Mais il y a des enfants qui peuvent encore faire la sieste 1 ou 2 ans. Donc, ce n'est pas grave du tout. Mais ce qui ne va pas, c'est que il regarde la télé et les jeux. Donc, les écrans sont un facteur excitant. Hein, il y a la lumière bleue des écrans qui donne un signal comme si c'était la lumière du jour. Donc, l'hormone d'endormissement a comme signal de ne pas être sécrété, puisque c'est comme si c'était le jour. Donc, l'enfant ne peut pas s'endormir le soir. Donc, pas d'écran une heure avant le coucher, et le moins d'écran possible, je me permets de le dire là à la radio, le moins d'écran possible et le moins de jeux vidéo. Ce qui est important, c'est que votre enfant joue seul avec ses jouets, en dessinant, en faisant des choses, mais pas tout le temps devant les écrans, parce qu'il ne développe absolument pas sa capacité à être seul. Et après, quand il est dans son lit tout seul avec lui-même, il est très anxieux et très mal.
Et Madame de Pierre, quand oui Odillon dit que son enfant s'endort à 23h, est-ce que 23h c'est une heure trop tardive pour le coucher d'un enfant?
Bien sûr, pour un enfant de 5 ans, c'est beaucoup trop tard. Et monsieur, il est important, je le disais, que avant 6 ans, un enfant dorme au moins 10 heures par nuit. Sinon, il est en danger au niveau de sa santé psychique et les problèmes organiques qu'il peut avoir. Donc 10 heures de sommeil, c'est pour que votre enfant fasse bien ses apprentissages à l'école et soit calme. Et surtout, le moins de télé possible, le moins d'écran possible.
Odillon, vous avez d'autres questions?
Je n'ai pas d'autres questions. En fait, c'est-à-dire que j'ai tout fait pour qu'il puisse dormir vers les 21h, mais même s'il n'est pas à la télé, il ne joue pas au téléphone, il est au lit, il ne dort pas. Alors, à 22h ou 23h.
Alors là, c'est l'enfant qui refuse, Madame Némé-Pierre, oui, de se coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors déjà, je pense que cet enfant de 5 ans, il doit être très fatigué le soir, et c'est à l'autorité des parents. Quand un enfant a froid, on lui met un pull pour le protéger du froid, même s'il ne veut pas. Et là, monsieur, c'est aux parents d'arriver à le maintenir au lit et à lui dire que maintenant c'est fini, c'est le temps des parents et c'est plus du tout le temps des enfants. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, monsieur.
Odillon, merci en tout cas de nous avoir appelé en direct de Guinée-Conakry. Les appels se poursuivent sur notre antenne RFI. On va marquer une courte pause. Vous restez avec nous, Liliane Némé-Pierre. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations. Toujours pour parler des troubles du sommeil chez l'enfant. Vous avez la parole, hein, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de Priorité Santé 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé.
Diarra Ndiaye. Seconde partie de Priorité Santé, c'est bien connu, les enfants ont besoin de sommeil pour bien se développer. Mais dans les faits, entre les problèmes d'endormissement, les réveils nocturnes, les poussées dentaires ou encore les cauchemars, les nuits des tout-petits et du coup celles de toute la famille ne sont pas un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs le premier facteur d'inquiétude chez les parents, loin devant l'alimentation. En studio, toujours avec moi, Liliane Nemé-Pierre qui est psychologue clinicienne, psychanalyste à Paris, auteur de l'ouvrage « 7 enfants qui ne dorment pas pour en finir avec les nuits sans sommeil » aux éditions Le Livre de Poche.
RFI.
Et nous partons tout de suite en République démocratique du Congo, à Lubumbashi plus précisément. En ligne, le professeur Kalumbo Mupoya qui est pédiatre aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Bonjour professeur.
Bonjour Karen Diaye.
Alors, professeur, vous avez beaucoup de parents qui viennent vous voir pour des troubles du sommeil de leur enfant en République démocratique du Congo.
Mais ce n'est pas la habitude des parents ici chez nous de consulter pour un enfant qui a des troubles du sommeil. Mais il y a quand même des parents qui viennent nous consulter pour des troubles du sommeil et souvent, ce sont des problèmes organiques. Ce n'est pas dans l'habitude des parents de consulter pour les troubles du sommeil. Il y a aussi des parents qui consultent quand même pour les troubles du sommeil ici chez nous.
Et à quel moment les patients viennent vous voir?
Oui, les parents viennent nous voir quand ils sont exaspérés et quand l'enfant est irrité et que les rendements scolaires de l'enfant diminuent. Et là, les parents consultent.
Et est-ce que les parents viennent facilement vous consulter, professeur?
Oui, ils viennent facilement nous consulter. Comme j'ai dit, ce n'est pas dans les habitudes des parents de consulter pour les troubles de sommeil. Néanmoins, il y a des parents qui consultent et facilement ils consultent.
Et lorsqu'ils viennent consulter, quels sont les principaux motifs qui sont mis en avant?
Oui, les principaux motifs pour lesquels ils consultent, d'abord, il y a les changements de comportement de l'enfant. Il y a une mère labile, il y a l'irritabilité de l'enfant, et aussi l'enfant ne somnole pendant la journée plusieurs fois, et la nuit l'enfant se réveille plusieurs fois, et l'enfant a des difficultés d'initier le sommeil. L'enfant peut arriver jusqu'aux heures tardives sans avoir le sommeil, et aussi on voit qu'à l'école, les rendements scolaires de l'enfant diminuent.
Et lorsque vous creusez pour connaître les causes de ces troubles du sommeil, est-ce que les parents sont eux aussi confrontés aux enfants qui sont par exemple accrochés aux tablettes ou au téléphone portable juste avant d'aller dormir?
Oui, madame, nous remercions d'abord Liliane Nemé-Pierre pour son livre qui est très important comme aide pour les parents. Et aussi pour nous, les cliniciens, et ça nous met sur la table les éléments pour bien prendre en charge les parents. Alors, avant de parler des troubles de sommeil et des plaintes pour lesquelles les parents consultent, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que c'est les troubles de sommeil et quelle est la physiologie des troubles de sommeil.
Non mais on va développer tout ça, professeur Kalumbo Mupoya, mais surtout pour les causes, surtout pour savoir en tout cas dans votre pays si les enfants sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres enfants dans le monde entier, surtout en ce qui concerne voilà la peur du noir, les insomnies qui viennent parce qu'ils ont faim ou alors parce que le téléphone est encore tout proche d'eux lorsqu'ils doivent se coucher.
Oui, les problèmes d'abord du sommeil, nous devons d'abord doit être un problème organique. Nous nous demandons est-ce que l'enfant, quand il dort, est-ce qu'il respire bien? Il n'a pas de problème organique. Au niveau de l'arbre respiratoire, est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas de végétation adénoïde? Est-ce que l'enfant n'a pas une maladie aiguë ou une maladie chronique? Nous nous assurons d'abord s'il n'y a pas de problème organique. Alors, s'il n'y a pas de problème organique, nous allons au-delà des problèmes organiques, nous allons un problème psychique. Alors, dans les troubles de sommeil, il y a deux personnes. Il y a le couple enfant et parents. Alors, le problème de sommeil, ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Et ça dépend soit des parents, soit de l'enfant.
D'accord. Professeur Kalambo-Mupoya, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Quels sont les conseils que vous donnez, vous, lorsque les parents viennent vous voir pour éviter les troubles du sommeil chez l'enfant?
Oui, les conseils que nous donnons, ce sont les 10 recommandations que nous donnons aux parents, les 10 recommandations en rapport avec l'hygiène du sommeil. Et l'enfant doit avoir un agenda, un calendrier régulier de sommeil. Et aussi l'heure de coucher et l'heure de réveil pendant la période de vacances et la période scolaire ne doit pas être différent. Et l'enfant doit passer la journée à l'extérieur sous le soleil.
Merci pour
et
toutes.
L'enfant.
Allez-y, je vous laisse conclure.
La chambre à coucher ne doit pas être étiquetée comme prison ou comme une salle ludique. L'enfant doit jouer à l'extérieur et non pas dans la chambre à coucher. La chambre à coucher doit être utilisée pour dormir. Et ne pas envoyer l'enfant au lit lorsqu'il est enfin affamé. Et ne pas donner à l'enfant des stimulants à plusieurs heures avant le sommeil. Par exemple, la caféine.
Pas d'excitant, effectivement, professeur Kalambo-Mupoya. Merci à vous, en tout cas, pour toutes ces précisions. On vous entend pas très bien, donc on va mettre un terme à notre interview. Mais merci d'avoir participé à notre émission où je rappelle que vous êtes pédiatre aux cliniques universitaires de Lubumbashi. On va prendre en ligne Ismaël qui nous appelle en direct de Soutoubouya à 285 km de Lomé, la capitale togolaise. Allô, bonjour Ismaël.
Bonjour Yann.
Ismaël, on vous écoute.
D'accord, ok. Bon, moi
Ismaël, on vous entend pas très bien. Alors Ismaël, on va, je vais me permettre de répéter votre question et puis écoutez-nous bien puisqu'on va s'occuper de votre cas, de votre bébé qui est né le 13 décembre, alors un nourrisson.
Un nouveau-né, oui.
Mais il s'inquiète fortement parce que son enfant ne dort pas, il dort de 5h à 8h du matin, Madame Nemé-Pierre. Comment expliquer que son enfant pleure autant et il se demande, Ismaël, pourquoi son enfant dort pas?
Alors d'abord, bonjour Ismaël. Je pense que quand on est un parent d'un bébé de cet âge-là, bon, on ne fait pas tellement de nuit, on peut pas dormir très bien parce que son bébé n'a pas encore installé ses cycles de sommeil. Et un bébé, au début, ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Donc j'ai l'impression que votre bébé n'arrive pas à la faire. Donc il faut que vous favorisiez avec des donneurs de temps un petit peu la différence entre le jour et la nuit. Que le jour, il y ait de la lumière, qu'on parle normalement, et la nuit, l'obscurité, la pénombre, et puis qu'on parle tout doucement pour qu'il voit une différence entre le jour et la nuit. Bon, là, je ne sais pas, vous ne dites pas s'il dort dans la journée. Je pense qu'il doit dormir sur des très courtes périodes et ne soyez pas inquiet. Il faut savoir comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement d'Ismaël. Est-ce que la maman a été séparée de son bébé? Est-ce que la maman l'allait? Il faut un petit peu essayer de creuser tout ça. Parce que ce bébé a du mal à installer ses cycles de sommeil, mais c'est presque normal. Hein, vous pourrez commencer à vous inquiéter au bout de 3-4 mois.
Alors, j'espère que Ismaël nous a bien entendu. En tout cas, l'inquiétude, c'est vrai qu'elle revient beaucoup
oui.
dans les interventions de nos auditeurs. On va prendre en ligne Kevin de Lubumbashi.
Bonjour.
Bonjour Kevin.
Bonjour bien, bonjour à tous les auditeurs.
Kevin, on vous écoute.
Alors, j'ai une demi-frère hein, qui crie très fort dans l'année. Quand il fait le nom des enfants avec lesquels il a passé la journée, etc. De tout ma voix, je voulais savoir de quoi ça vous fait.
Alors, Kevin, Liliane de Meyer, excusez-moi, demande en fait pourquoi son enfant crie autant.
Alors, est-ce que c'est son petit frère ou son... Est-ce que c'est votre fils ou votre petit frère?
Non, c'est un petit frère.
Ah, c'est un petit frère. Et ses parents sont où?
Ils sont à la maison, il habite avec moi ces derniers temps.
D'accord. Donc, et pourquoi ce ne sont pas ses parents qui s'occupent de lui la nuit? Parce que c'est beaucoup plus sécurisant pour un petit frère que papa ou maman viennent la nuit, plutôt que vous. Vous avez, ou à moins que vous ayez un rôle de papa avec ce petit garçon.
Mais parfois, les liens entre frères et sœurs, effectivement, font
que... Oui, mais quelquefois, l'enfant se réveille la nuit pour dire quelque chose à ses parents. Donc, si c'est le grand frère, je ne dis pas que le grand frère n'est pas sécurisant... du coup, le message qu'il adresse à ses parents n'est pas entendu.
Il est très fréquent, peut-être que... Kevin, vous avez quel âge?
Oui, moi j'ai 25 ans.
Voilà, c'est très fréquent que les enfants s'occupent, c'est un grand, donc il s'occupe de son petit frère. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour que...
Eh bien, de voir comment...
Son frère se couche plus tôt, et en tout cas évite ses cris durant la nuit.
Est-ce qu'il crie dans son sommeil ou il se réveille vraiment?
Dans son sommeil, vraiment.
Bon, bah alors s'il crie dans son sommeil, vous le laissez. Ce sont des cauchemars et il faut un petit peu regarder ce qui se passe dans la journée. Est-ce que à l'école ça se passe bien? Est-ce qu'il voit suffisamment papa ou maman le matin ou le soir? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il a suffisamment d'échanges avec eux? Et puis savoir ce qui se passe à l'école. Donc il fait des cauchemars, ce qui peut être normal. S'il crie trop dans la nuit, s'il fait trop de cauchemars, il faut s'interroger et se demander ce qui se passe dans la journée.
Merci beaucoup Kevin de nous avoir appelé. On va prendre cette fois-ci un message Facebook, tiens, de Soumana Amidou qui, elle, Madame Nemé-Pierre, nous dit que sa fille âgée de 11 mois se réveille toutes les 15 minutes dans la nuit et elle ne cesse de pleurer. Elle a consulté un pédiatre mais rien n'a changé. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller?
Alors, de savoir d'abord si... Bonjour Soumana. D'abord de savoir si votre fille dort bien. Ah, c'est pas Soumana?
Non, Soumana n'est pas en ligne avec nous.
Ah,
c'est,
pardon,
un message
c'est un message Facebook.
Mais, donc on pourra, elle ne pourra pas répondre à nos questions, mais en tout cas, elle se demande. Sa fille, âgée de 11 mois, qui se réveille fréquemment, est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas normal qu'elle se réveille toutes les 15 minutes dans la nuit.
Alors qu'est-ce qu'elle
peut
faire?
Donc il faut savoir si déjà elle fait la sieste dans la journée, et puis ce qui se passe quand elle se réveille, est-ce qu'elle pleure et ça dégénère si sa maman n'intervient pas, ou est-ce que ça passe parce que souvent, des enfants pleurent entre deux cycles de sommeil. Donc, il faut quand même se poser des questions de la journée de sa fille. Comment se passe-t-elle? Parce qu'il n'est pas normal de se réveiller toutes les 15 minutes. Hein, les cycles de sommeil à 11 mois font 70 minutes. Donc, c'est pas normal de se réveiller toutes les 15 minutes.
Il y a des troubles du sommeil que vous estimez entre 25 et 50% pour les 6 mois à 3 ans. Mais à quel moment on parle d'insomnie? Parce qu'effectivement, les enfants se réveillent, mais quand ils ne dorment vraiment très peu, qu'est-ce que les parents doivent faire?
Ben, les parents doivent s'interroger. L'enfant dit quelque chose dans sa famille, enfin qui ne va pas, de sa place à lui, de cette famille-là.
Donc en fait, c'est un cri d'alerte quand il ne dort pas.
Il ne dort, ça n'arrive jamais qu'il ne dorme pas du tout de la nuit. Hein. Ils dorment un peu, ils vont se réveiller ou toutes les 15 minutes ou toutes les heures, mais ils dorment quand même. Donc l'insomnie qu'on appelle froide, c'est chez des bébés en psychiatrie lourde. C'est des bébés qui vont très mal et qui restent éveillés la nuit, les yeux grands ouverts et qui ne pleurent pas. Là, c'est inquiétant. C'est l'insomnie blanche, ça c'est inquiétant. Mais sinon, les enfants qui pleurent la nuit, qui se réveillent, il faut essayer de se demander ce qui se passe. Et surtout dans les troubles du sommeil qui surgissent comme ça, il y a une semaine, il y a un mois, jusque-là l'enfant dormait bien, s'interroger sur ce qui se passe, sur ce qui vient de se passer dans cette famille. Les troubles du sommeil ne tombent pas comme ça du ciel. Si un enfant a toujours fait ses nuits, a toujours bien dormi, si tout d'un coup il ne dort pas, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne dans sa vie d'aujourd'hui.
On a Adi Nani qui nous a laissé un message sur Facebook qui nous a commenté tout cela du nord des Comores. Et lui, il dit que depuis une semaine, son fils ne dort pas, il mange vers 19h, il regarde la télé, il dort vers 22h et il se réveille fréquemment. Et lui, il utilise le chantage. Alors, son fils a peur des chats, hein, et il lui dit que si tu ne dors pas, voilà, le chat va venir t'attraper dans notre village. Est-ce que le chantage, ça peut aider?
Alors, le chantage, ça n'aide pas du tout, parce que pour qu'un enfant dorme bien, il faut le sécuriser. Alors, si on brandit la peur du loup ou la peur des chats, l'enfant va être dans son lit complètement angoissé avec cette peur-là. Alors, bien sûr que le chantage dans l'éducation peut marcher, on l'utilise tous un petit peu, mais surtout pas au moment du coucher. Hein, c'est l'autorité et la sécurisation qui sont bonnes pour un enfant.
Et Issoufou de Titao se demande, lui, qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'il a en fait ses deux enfants qui dorment dans la même chambre, de 7 ans et de 3 ans. Il se réveille souvent la nuit, mais en fait c'est l'enfant de 3 ans qui réveille son frère.
Ben c'est le problème de tous les enfants qui dorment dans la même chambre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir dans la même chambre, mais effectivement, s'il y en a un qui ne dort pas bien, eh bien, il réveille l'autre. Alors, quelquefois, il réveille l'autre, et quelquefois, il peut hurler la nuit et ne pas réveiller du tout l'autre. Ben, de le mettre ailleurs, si on peut, si on a un logement suffisant, le mettre ailleurs, le séparer, et essayer de comprendre pourquoi il se réveille la nuit.
Il a aussi évoqué des cauchemars. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, pour les cauchemars sont normaux dans la petite enfance. Parce que le bébé ou l'enfant, le bébé fait pas des cauchemars. On ne parle de cauchemars que quand l'enfant peut formuler ce qu'est son cauchemar et ce qu'il a vu dans la nuit, hein. J'ai peur du loup, j'ai peur du méchant monsieur, j'ai peur des chats. C'est quand il formule qu'il y a un cauchemar. Le cauchemar est quelque chose de normal dans cette période de la petite enfance où l'enfant peu à peu s'autonomise, s'éloigne de plus en plus de ses parents, est obligé de faire des choses sans ses parents, donc où il a un petit peu peur et où il fait des nouveaux apprentissages. Donc les cauchemars sont normaux, mais attention, s'il fait 3 cauchemars par nuit, il faut s'inquiéter, et il faut s'inquiéter si la teneur du cauchemar se prolonge dans la journée. Si l'enfant a peur encore dans la journée du loup qu'il a vu dans la nuit, ou si l'enfant ne veut plus se coucher le soir de peur de faire des cauchemars. Et il faut s'interroger.
On voit parfois des parents administrer, oui, à leurs enfants des tisanes dans le biberon ou bien des granules homéopathiques. Alors, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'en pense que ça peut pas faire de mal, mais en même temps, en tant que psychanalyste et psychologue, je suis un petit peu contre tout ce qui peut apaiser un enfant en avalant des substances, que ça soit des granulés homéopathiques, que ce soit des tisanes de fleurs d'oranger ou autres.
Je parle de miel aussi, dans
de miel,
bon,
de
voilà,
lait dans
c'est
le miel,
plutôt à éviter.
De miel dans le lait, du miel dans le lait,
ou bien dans de l'eau.
Alors ça peut être un facteur apaisant, mais moi je suis un petit peu contre tout ça parce que ça habitue l'enfant à se reposer sur des substances pour s'apaiser. Et je trouve qu'on peut aussi apaiser son enfant avec notre présence, avec nos paroles bienfaisantes.
Une dernière question peut-être autour de l'alimentation durant la nuit.
Oui.
Il y a 15% des réveils nocturnes des bébés qui sont dus à des causes médicales, hein, par exemple l'intolérance au lait,
le reflux,
exactement.
Oui.
Quel type d'alimentation il faut privilégier peut-être avant le sommeil, avant le coucher de l'enfant?
Alors, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas médecin ni pédiatre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'autour des 6 mois, il n'y a plus d'alimentation la nuit. On voit des enfants de 3 ans qui ont 1, 2, 3 biberons la nuit.
C'est beaucoup
trop.
Il
n'y a plus d'alimentation autour des 6 mois. Alors, les bébés allaités, en général, tête un peu plus longtemps la maman, mais il n'y a plus d'alimentation, c'est ni biberon de lait, ni biberon d'eau, il n'y a rien. Parce que si l'enfant reçoit quelque chose, il va se réveiller, c'est un conditionnement, et il va se réveiller à nouveau pour avoir le biberon.
Et pour conclure, quel béaba les parents pourraient appliquer pour que l'enfant dorme bien? Les béaba, les 3 étapes clés, on va dire.
Alors, je vais dire quelque chose de théorique, que le climat soit apaisé à la maison, qu'on ne se dispute pas avant le coucher, qu'on ne crie pas sur les enfants avant le coucher, qu'on fasse une soirée sans écran, même pour les parents, même un écran de télévision qui est dans la pièce principale, sans écran, où on est avec son enfant et où on joue davantage dans sa chambre. Il ne doit pas aller dans sa chambre que pour dormir, ça doit être un endroit de plaisir partagé avec ses parents aussi, s'il a la chance d'avoir une chambre.
Merci pour toutes ces précisions, Liliane Nemet-Pierre. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste à Paris, auteur de l'ouvrage « Cet enfant qui ne dort pas » pour en finir avec les nuits sans sommeil aux éditions Le Livre de Poche. Autre ouvrage, « Le sommeil du bébé pour que les parents fassent leur nuit ». C'est une petite plaquette avec les essentiels du sommeil publié aux éditions Philippe Duval.
Priorité santé sur RFI.
Des volontaires pour étudier les risques cardiovasculaires. Une étude est en cours à l'échelle nationale française. L'équipe est coordonnée notamment par le docteur Boris Ancel du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Bichat, Claude Bernard. Docteur Boris Ancel, bonjour.
Bonjour Madame Diaye.
Alors, un appel à volontaires est en cours pour évaluer l'intérêt de la santé connectée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette étude, docteur ?
Effectivement, nous avons un centre hospitalo-universitaire de santé connectée qu'on co-dirige avec le professeur Nataf à l'hôpital Bichat et on va tester un programme de protection contre les maladies cardiovasculaires à l'aide d'un service qui est totalement gratuit. Le constat, il est simple. Il y a un adulte actif sur deux qui présente un risque, comme une hypertension, un diabète ou du cholestérol. Et dans la plupart des cas, eh bien, les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas de symptômes et que parfois, ils n'ont pas forcément accès facilement aux médecins et ne se suivent pas correctement. Donc, on s'est dit qu'un programme de santé connectée pouvait aller vers les patients, vers ceux qui ne consultent pas forcément, pour les aider à évaluer leur risque cardiovasculaire et les aider à suivre leur risque cardiovasculaire. Et donc ça s'adresse à tout adulte francophone. C'est ça la magie de la santé connectée, c'est que ça peut vraiment intéresser des gens partout, en France et en dehors de France, toutes les personnes qui parlent français.
Et vous recherchez d'ailleurs 5000 volontaires d'ici au 20 janvier. Est-ce que pour l'instant l'engouement de la population est présent ?
L'engouement est présent, oui, il y a 1500 volontaires qui ont répondu présents depuis, nous avons lancé une quinzaine de jours cette opération, mais il faut continuer et il n'y a pas de limite. Si on est au-delà des 5000, ça fera très bien et comme je le dis, tout adulte, même les personnes qui ne se savent pas à risque cardiovasculaire, peuvent bénéficier d'un tel programme parce que souvent, encore une fois, on ne ressent rien. On ne ressent pas l'excès de tension artérielle, le diabète, le cholestérol. Et avec un tel programme, ça va vous pousser, en fonction de votre profil particulier, à évaluer certaines choses avec des examens, avec un interrogatoire et avec des choses que vous allez observer sur votre corps. Il y a certains signes qui peuvent évoquer certains risques. Et bien ça, on va les voir. On va vous pousser à les chercher dans le programme.
Parce que ce qui est intéressant et ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que contrairement aux idées reçues, les maladies cardiovasculaires ne concernent pas que les seniors finalement. Et c'est peut-être l'enjeu de cette étude ?
Absolument. Non seulement ça ne concerne pas que les seniors, mais ça ne concerne pas que les hommes. Et aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité et de handicap chez la femme. Donc finalement, tout le monde est concerné, tout le monde doit s'évaluer. Et s'il y a un problème, il faut se faire suivre correctement. Et un programme de santé connectée peut aider même les personnes qui sont dans des zones de déserts médicaux, les gens qui n'ont pas le temps d'aller chez le docteur. Ça ne va pas remplacer le docteur, mais ça va aider à prioriser, c'est un peu comme le nom de votre émission, ça va aider à prioriser les examens et les surveillances à faire.
Et à l'issue des résultats attendus pour septembre 2018, il y aura un programme qui sera proposé aux volontaires. Comment va s'articuler ce dernier ? Quel est l'objectif ?
Alors, aujourd'hui, c'est simple. Toute personne qui est intéressée par cette thématique, eh bien, va répondre à des questionnaires qui vont lui permettre d'évaluer son risque. Tout ça, c'est absolument sécurisé, hein, selon les règles en vigueur. Les personnes vont recevoir des conseils pour réduire ce risque et un accompagnement automatisé pour vous aider à surveiller le cholestérol, la tension, le sucre dans le sang. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous me demandez, est-ce que c'est un programme qui va s'étendre après ? Aujourd'hui, une personne qui s'intéresse va s'inscrire et va pouvoir l'utiliser aussi longtemps que la personne ressent le besoin de l'utiliser.
Et docteur, la télémédecine, les objets connectés, les applications de télésuivi et d'e-coaching, vous, pour vous, quels sont les apports de cette santé connectée?
Écoutez, il y a beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui, et c'est vrai, vous avez raison, c'est compliqué de faire le tri. C'est pour ça qu'en tant que centre hospitalo-universitaire, avec le professeur Patrick Natas, on veut mettre un peu de science dans tout ça, on veut évaluer les choses de manière scientifique, et je pense qu'il y a vraiment une place pour la santé connectée à l'avenir, mais il faut absolument évaluer les outils et proposer à chacune et à chacun le programme qui peut lui être utile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas efficaces, il y a beaucoup de choses qui sont efficaces chez certaines personnes, et finalement en médecine, eh bien, on doit s'adapter à chacune et à chacun, et c'est le rôle de notre démarche, c'est d'évaluer à qui peut servir un programme de santé connecté pour pouvoir demain proposer à chaque personne l'outil qui peut lui servir.
Docteur Boris Ancel, merci.
Juste une chose, vous savez, c'est les fêtes dans 3 jours.
Oui.
Il faut savoir qu'un tel programme n'est premièrement pas contradictoire avec un repas de fête.
Oui.
On ne va pas vous interdire de fêter. Et puis dernière chose, c'est fait pour bien terminer l'année et encore mieux la commencer.
Eh bien, l'appel est lancé, docteur. Merci à vous. En tout cas, je rappelle que vous êtes médecin au service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Bichat, Claude Bernard. Priorité santé touche à sa fin. Demain dans Priorité santé, nous parlerons de l'hygiène dentaire. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro est le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité santé. Merci à nos auditeurs. À bientôt sur RFI.
Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.